novembre 2001, les tours jumelles du World Trade Center à New York s'effondrent. Les États-Unis, première puissance du monde, sont touchés en plein cœur par une vaste entreprise terroriste islamiste.
Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.
Est-ce qu'avec autant de données disponibles, avec les services de renseignement présentés comme les meilleurs de la planète, comment ce projet terroriste a-t-il pu se construire? Peter Thiel est le patron et cofondateur de PayPal, une entreprise américaine pionnière dans le paiement en ligne. Et chez PayPal, les équipes ont construit des systèmes capables de détecter des fraudeurs en reliant des milliers de signaux, les transactions, les comportements des clients, les connexions entre comptes, etc., etc. L'histoire raconte que va alors germer dans la tête de Peter Thiel l'idée suivante. Et si ce qu'on a mis en place en termes d'analyse de data pour détecter la fraude pouvait être appliqué à la lutte contre le terrorisme? Thiel va alors rassembler une équipe pour construire son projet et entrer en contact avec les autorités américaines. Et c'est en 2003 qu'un coup de pouce décisif arrive. La CIA met 2 millions de dollars sur la table et décide de collaborer avec cette jeune entreprise de logiciels qui va s'appeler Palantir.
The power of Isengard is at your command, Sauron, Lord of the Earth.
Le nom est tiré du Seigneur des Anneaux, l'œuvre de fiction heroic fantasy de Tolkien, où une palantir est une pierre de vision qui permet de voir à distance et de communiquer rapidement pour gouverner des territoires. La société Palantir va donc progressivement construire des logiciels permettant de mieux voir en quelque sorte à travers de très vastes réseaux de données. L'idée, c'est de parvenir à rendre signifiant et utilisable un fatras de données en tous sens. C'est ce à quoi travaille l'entreprise. Et pour cela, elle développe ses logiciels en étroite collaboration avec les autorités américaines. La CIA, on l'a dit, l'armée, elle développe des outils très précieux pour l'analyse et le croisement de données sur le champ de bataille. Le programme Medicaid, afin de détecter les fraudes à l'assurance santé, etc., etc. Mais tout cela ne se fait pas franchement en transparence vis-à-vis du grand public. L'illustre particulièrement bien. En 2012, Palantir commence à développer secrètement un programme de prévision policière à la Nouvelle-Orléans. Le projet, commandité par la police locale, n'a même pas été communiqué aux élus locaux. Et pourtant, il va utiliser et croiser beaucoup de données personnelles sensibles. Les connexions téléphoniques entre individus, des données issues de tout ce que publient les gens sur les réseaux sociaux, le contenu de bases de données criminelles, des rapports de police, le contenu d'appels téléphoniques passés depuis les prisons, etc. Tout ça dans le but de tenter de prédire quels individus risquent de commettre des actes de violence et quels individus risquent d'en être les victimes. Depuis, la société Palantir a encore considérablement élargi les services qu'elle propose en matière de sécurité, dans les systèmes de santé, dans la gestion des politiques d'immigration, pour des entreprises commerciales aussi, des services qu'elle propose bien au-delà des États-Unis désormais, notamment en Europe, et sa capitalisation boursière est énorme, 300 milliards de dollars, soit 60 fois plus que son chiffre d'affaires de 2025. C'est dire si les investisseurs croient dans le potentiel de cette entreprise qui fascine autant qu'elle inquiète.
Palantir, c'est d'expliquer, nous ne sommes pas une entreprise de surveillance, on est différent des grandes plateformes et des grands réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter et compagnie, c'est nous, on ne collecte pas d'informations personnelles. En fait, ils interviennent à un autre niveau de la chaîne, c'est-à-dire qu'ils collectent tout un tas, enfin, ils utilisent tout un tas d'informations, y compris certaines des informations issues de ces réseaux sociaux, et ils leur donnent du sens. Donc en fait, ce que vend Palantir, c'est pas une capacité de surveillance stricto sensu, même si, de fait, ils ont des contrats avec des services de renseignement, avec des services de police, avec l'armée, dans des dispositifs qui peuvent être des dispositifs de surveillance, mais eux, ils vendent une capacité à rendre visible ce qui, jusque-là, était invisible. La promesse initiale, c'était de dire, voilà, les services de renseignement ont échoué, failli à leur mission en 2001 en ne parvenant pas à prédire les attentats du 11 septembre. Et donc, à ce moment-là, une entreprise privée doit prendre le relais et doit être capable de lire l'avenir quelque part, puisque c'est un peu ça la promesse magique que porte d'ailleurs le nom de l'entreprise, comme vous l'avez rappelé dans le petit reportage liminaire.
Ça s'effectue dans de très nombreux domaines d'activité différents. C'est le cas sur le champ de bataille pour les armées, où on va aller croiser à la fois des données satellites, des données de capteurs de terrain, des données du renseignement, d'espionnage de communication, etc., pour fournir une sorte de tableau de bord qui va permettre alors aux militaires d'agir sur le terrain. C'est le cas, on l'a dit, pour les services de sécurité, de renseignement. C'est le cas aussi pour aller repérer certains profils dans le cas de la lutte contre l'immigration illégale aux États-Unis. Bref, Palantir fournit ce même service à des quantités d'usages très, très différents, au fond.
Alors, des quantités d'usages très différents, parce qu'il y a aussi l'utilisation pour le secteur privé, hein. On a des très grandes entreprises comme Airbus, comme des banques qui sont clientes ou ont été clientes de Palantir. Moi, je dirais que le dénominateur commun entre tous ces usages, qui semblent en apparence assez différents, c'est qu'en fait, Palantir vend une capacité à désigner des cibles. C'est-à-dire que ce soit des corps indésirables sur le sol américain qu'il faudrait expulser, que ce soit des cibles à éliminer, comme on le voit aujourd'hui en Iran, où ce programme Maven, qui est utilisé par l'armée américaine, pour désigner des cibles sous perfusion des logiciels de Palantir, que ce soit pour désigner, comme ça a été le cas pendant le Covid, des corps malades, avec des contrats qui ont été signés, notamment au Royaume-Uni. Donc on voit bien que Palantir est une entreprise qui profite des crises quelque part, ou capitalise très littéralement sur les crises, et dont la fonction est de discriminer, au sens premier du terme, les amis des ennemis.
Et tout cela se fait du coup dans une relation très entrelacée, j'ai envie de dire, avec les autorités qui va empiéter sur ce qu'on pourrait considérer être les missions régaliennes des États, puisque quand on a aujourd'hui des logiciels qui vont en quelque sorte pré-indiquer aux services de police vers quels suspects ils doivent se diriger, même chose pour les services d'immigration, même chose pour la défense, hein, puisque ce ne sont pas les programmes de Palantir qui vont tirer tout seul sur une cible, mais qui vont quand même contribuer à construire les données pour pouvoir justement prendre cette décision-là, on peut dire que vraiment cette société privée empiète de plus en plus sur ce que jusqu'il y a peu on considérait quand même comme des missions plutôt exclusives des États.
Tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est ça la question principale que pose Palantir, et c'est comme ça que le débat public devrait être mené, à mon sens. C'est-à-dire que c'est une prédation du régalien, parce que ce que fait Palantir, c'est se rendre propriétaire, et propriétaire à travers un logiciel qui est lui-même propriétaire, de l'intelligibilité du monde. Si on prend l'exemple qui a été assez médiatisé, et qui est assez à la fois effroyable et spectaculaire, de la police de l'immigration, l'ICE, aux États-Unis, on a dans des dépositions des agents de l'ICE qui expliquent qu'ils ont dans leur voiture, dans leur SUV, un écran sur lequel apparaissent des espèces de cartes de chaleur avec des cibles que permettent d'identifier les logiciels de Palantir et d'autres entreprises, hein, puisque c'est un gros maillon dans une chaîne un peu plus large. Et en fait, on se rend compte à la lecture de ces dépositions et en observant l'action de l'ICE que s'il n'y avait pas ces logiciels, eh bien l'action de ces supplétifs de la police ne serait pas aussi efficace, si j'ose dire. Ou quand, il y a quelques années, la police de New York décide de rompre le contrat avec Palantir pour des raisons notamment financières, parce que c'est des logiciels qui coûtent extrêmement cher. Et à ce moment-là, Palantir dit ok, il n'y a pas de problème, mais nous, on est propriétaires de la formule de calcul quelque part, c'est-à-dire que c'est nous qui vous offrons la possibilité de voir. Et donc, à partir du moment où un client essaie de se désengager, de se défaire comme ça de l'étreinte de Palantir, il se retrouve dans cette situation extrêmement délicate, a fortiori quand on est sur du régalien, hein, sur des activités de police, de renseignement, donc des activités qui sont des activités très sensibles, où vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un hiatus, et ben dans ces moments-là, ça devient extrêmement difficile parce que vous avez délégué, confié votre souveraineté à une entreprise étrangère qui, au surplus, maintenant est alignée sur l'administration Trump.
Oui, et ça c'est quand même important aussi de le préciser. Aujourd'hui, Palantir ne fournit plus seulement des services aux autorités américaines, elle s'implante dans d'autres pays, notamment en Europe. On a aussi beaucoup parlé du cas de l'Ukraine, où visiblement c'est un ingrédient important aussi de la lutte que l'Ukraine mène aujourd'hui contre la Russie. Donc Palantir, ce n'est plus seulement cette intrication avec les autorités américaines, c'est le cas aussi avec d'autres autorités ailleurs dans le monde.
Oui, tout à fait. On peut mentionner l'exemple de l'Ukraine, on peut mentionner l'exemple de l'armée israélienne aussi, hein, puisque Palantir est actif à Gaza. Alors, on est encore parfois obligé de faire un peu de divination sur le périmètre exact de ses activités, parce que, encore une fois, et vous l'avez très bien rappelé, il y a une opacité, mais qui est une opacité structurelle. C'est-à-dire que c'est pas une opacité accidentelle. On s'est conçu comme ça, parce que ce qui fait la valeur de Palantir, ce qui fait sa capitalisation et ce qui permet à son patron, Alex Karp, d'être l'un des patrons les mieux rémunérés de la planète aujourd'hui, c'est précisément d'être cette espèce de boîte noire. Si le ciel de Palantir était en accès libre, évidemment, financièrement, ce serait beaucoup moins intéressant pour eux. Mais cet effet d'opacité, quand il est comme ça diffusé un peu à travers le monde, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Israël, que ce soit dans tout un tas de pays européens, que ce soit d'ailleurs, apparemment, beaucoup de pays européens, hein, c'est-à-dire que on a la France, le Royaume-Uni, on a des pays scandinaves, on a les Pays-Bas, voilà, à des degrés divers, hein, avec des implications qui sont des implications différentes. On voit une vraie pénétration de ces marchés-là, et donc on voit une prédation à une échelle continentale de ce pouvoir régalien, et de ce pouvoir régalien dans un peu toutes ses composantes.
Alors, on va s'intéresser quand même au personnage dont on a parlé dans notre introduction, qui est un peu à l'origine de Palantir. Il y a le patron, vous l'avez dit, Alex Karp, et on va en parler également. Mais la personne que l'on associe le plus volontiers au lancement et à l'idée, en fait, même de Palantir, c'est Peter Thiel, hein, qui était à l'époque chez PayPal. Et je propose qu'on prenne le temps de s'intéresser.
En Allemagne, mais il passe son enfance en Afrique du Sud, dans une station balnéaire fondée par des colons allemands, où il est confronté à une certaine nostalgie du nazisme. Après s'être enrichi dans l'exploitation de l'uranium africain, sa famille déménage aux États-Unis, où Peter Thiel réussit brillamment ses études, notamment de philosophie à Stanford. Et puis à 33 ans, il fonde PayPal avec l'un de ses amis et Elon Musk, qui travaillait déjà sur une idée similaire. Et là, on commence déjà mieux à comprendre qui est Peter Thiel, car son vrai projet à travers PayPal, c'est de créer une nouvelle monnaie mondiale totalement libre qui échappera au contrôle des gouvernements. Ce milliardaire est en effet animé par l'idéologie libertarienne, c'est-à-dire que pour lui, la liberté prime sur tout et notamment sur l'État. Il ne croit pas en la démocratie ni au suffrage universel. Il veut plutôt que le monde soit géré par les entrepreneurs de la tech.
On ne peut pas remporter une élection et obtenir certaines choses car nous sommes une minorité. Mais en fait, peut-être que nous pouvons changer le monde unilatéralement sans constamment devoir convaincre des gens, supplier et implorer des personnes qui ne seront jamais d'accord avec nous. Et ça, grâce à des moyens technologiques. C'est pourquoi je pense que la technologie est une alternative incroyable à la politique.
Son objectif concret, c'est donc de saper l'État qu'il voit comme un obstacle au développement technologique, et il y parvient grâce à sa fortune. Alors déjà, c'est le premier investisseur extérieur de Facebook. On le retrouve aussi dans les fonds de YouTube, LinkedIn, SpaceX ou Airbnb. Bref, il est omniprésent et il investit aussi son argent à des fins idéologiques. Il a ainsi voulu créer un projet deal totalement libertarienne pour échapper au contrôle gouvernemental. Il finance aussi des projets qui luttent contre la vieillesse car il est passionné par le transhumanisme et veut que son corps soit cryogénisé. Et puis bien sûr, il tente de placer des candidats libertariens au pouvoir. C'était l'un des seuls patrons de la tech à soutenir Donald Trump dès 2016.
Good evening. I'm Peter Thiel.
Je fonde des entreprises et je soutiens les gens qui créent de nouvelles choses, des réseaux sociaux aux fusées. Je ne suis pas un politicien, Donald Trump non plus. C'est un bâtisseur et il est temps de reconstruire l'Amérique.
Peter Thiel a aussi largement participé à l'entrée en politique de J.D. Vance et a initié le rapprochement avec Donald Trump. Et puis il est profondément persuadé que l'antéchrist menace notre monde et qu'il s'incarne dans toutes les personnes qui critiquent la technologie ou qui prônent des politiques de diversité, avec une menace essentielle, Greta Thunberg.
Alors, il y a un paradoxe chez Peter Thiel, c'est qu'à la fois, comme vous le rappeliez dans le sujet, il y a un ferment qui est un ferment profondément libertarien chez lui. Alors, cette notion de libertarianisme qu'on voit toujours de manière un peu lointaine en Europe, parce qu'on n'a pas vraiment de force politique libertarienne, libertarienne et qui a beaucoup muté dans les années 80-90 aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a eu la poussée d'un libertarianisme, mais qui est un libertarianisme autoritaire, c'est-à-dire qu'on garde la partie néolibérale, hein, on garde voilà, la partie très explicitement capitaliste, mais couplée à une organisation très hiérarchique de la société. Et je pense que c'est devenu un peu le centre de gravité politique de la Silicon Valley aujourd'hui, et c'est le centre de gravité politique d'un Peter Thiel, qui du coup est à la fois ce libertarien qui veut se défaire de l'État, hein, qui essaie de s'affranchir de la politique, ce qu'il essayait déjà de faire avec PayPal, qui pense que, selon la formule maintenant assez célèbre, la démocratie et la liberté ne sont pas compatibles, et en même temps c'est quelqu'un qui dépend de la commande publique, parce que, on le disait tout à l'heure, si Palantir n'avait pas eu et un coup de pouce de la CIA quand l'entreprise a été créée, et si elle n'avait pas eu des clients, qui étaient d'abord des clients régaliens, des agences de renseignement, des services de police, etc., eh bien Palantir ne serait pas l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans cette espèce d'ambiguïté, c'est qu'il y a une volonté, alors qui n'est pas une volonté de coup d'État, hein, c'est-à-dire que nous, on a cette catégorie qu'on a forgée dans le livre, qui est la catégorie de techno-fasciste, parce qu'on retrouve des invariants des fascismes historiques, mais on n'est pas dans la marche sur Rome, on est bien plus dans une espèce d'administration du basculement, Palantir correspondant assez bien finalement à un véhicule pour opérer cette administration du basculement, l'objectif étant de mettre l'État au service de ces entreprises, de corroder les institutions de l'intérieur, sachant que bon, bah, les institutions dans les démocraties libérales, elles sont déjà relativement, voire très affaiblies, et donc sur ce corps un peu malade, faire proliférer l'idée selon laquelle la technologie doit remplacer effectivement la politique et doit finalement servir à contourner la démocratie représentative.
Et est-ce que...
profil assez intéressant, parce que pendant longtemps, c'était un peu un système good cop, bad cop. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté voilà, Peter Thiel, le libertarien, républicain, soutien de Donald Trump dès 2016, et puis de l'autre, on avait Alex Karp qui se vendait comme de formation marxiste, votant démocrate, avec un air un peu des cheveux hirsutes. Donc même visuellement, les deux sont très, très différents. On a longtemps joué voilà, sur cette espèce de dissemblance entre les deux, et puis aujourd'hui, quand on écoute ou qu'on lit Alex Karp, qui a publié un livre notamment qui s'appelle The Technological Republic, donc la République technologique, et dont les prescriptions aujourd'hui sont finalement complètement alignées à la fois sur celles de Peter Thiel et sur celles de l'administration Trump. C'est-à-dire que quand on demande à Alex Karp si le rôle de Palantir dans la politique migratoire de Trump et le soutien technologique apporté à l'ICE lui pose une question morale, il l'évacue d'un revers de la main en estimant qu'il remplit absolument sa mission, mais qui est une mission quasi civilisationnelle. Donc aujourd'hui, Alex Karp est quelqu'un qui, en dépit de voilà, ce passé qu'il a mis en avant, le fait qu'il ait étudié, il ait fait sa thèse de doctorat dans l'orbite de Jürgen Habermas, donc grand philosophe de l'espace public, etc., il s'en est quand même beaucoup, beaucoup éloigné, Palantir étant probablement l'exact opposé de tout ce que prescrivait Jürgen Habermas, justement. Alors, il faut faire deux mouvements et deux choses simultanément. Il faut à la fois s'intéresser à Palantir en tant qu'entreprise, en tant qu'acteur quasi monopolistique sur ce marché-là, mais il faut aussi ausculter tous les discours, y compris un certain nombre de discours qui sont très critiques de Palantir, notamment pour des questions de souveraineté. Hein. On voit ce débat qui monte de plus en plus dans les pays européens avec, si je prends l'exemple de la France par exemple, les services de renseignement intérieur sont clients de Palantir depuis les attentats de 2015, parce qu'à cette époque-là, il fallait une solution dans l'urgence, et donc cette solution qui était présentée comme temporaire à l'époque, et dont le contrat a été renouvelé pour la troisième fois à la fin de l'année dernière, et dans le même temps, le ministère des Armées communique de manière assez agressive sur le fait qu'il ne veut absolument pas travailler avec Palantir. Moi, ce que je crains, c'est un peu une palantirisation du monde, c'est-à-dire que si on fait émerger d'autres acteurs qui seront des acteurs européens, dont on estime que parce qu'ils sont européens, ils correspondent mieux à nos principes, à nos valeurs, etc., mais qu'on ne s'intéresse pas au projet de société qu'il y a derrière, parce qu'on peut voir Palantir et ses émanations comme une théorie de l'État, finalement, et donc cette théorie de prédation du régalien, eh bien, si on remplace Palantir par une entreprise européenne, en fait, on ne fait que déplacer le problème. Il faut se défaire de tout un imaginaire, d'un imaginaire technique, selon lequel l'entreprise, en l'occurrence, deviendrait le lieu du politique, et donc le lieu du politique, de la décision souveraine, enfin, toute la théorie politique qui a beaucoup influencé d'ailleurs un Peter Thiel, qui est le lieu de la distinction entre l'ami et l'ennemi, le lieu de la décision exceptionnelle, voilà, ce genre de choses, contre la politique, la vieille politique, avec ses médiations, avec ses frictions, ses délibérations, ses élections, etc. Et en fait, on voit la tentation qu'il peut y avoir pour un certain nombre de démocraties libérales aujourd'hui, qui sont un peu à bout de souffle, de se tourner vers ce type de modèle, la technique étant vue comme un moyen d'administrer la société, là où la politique, précisément, à l'ancienne, ne suffit plus. Et ça, je pense que c'est un vrai danger, et c'est probablement l'effet le plus pernicieux d'une entreprise comme Palantir, qui déteint sur beaucoup d'autres, et donc je regarde d'un air toujours assez prudent ceux qui se présentent comme des alternatives.
Un petit mot alors pour...
Parce que des entreprises comme Palantir, c'est pas la seule, capitalisent sur la faiblesse des démocraties libérales, la faiblesse des institutions. On voit qu'on a des modèles qui sont des modèles à bout de souffle. On voit une classe politique, des partis politiques qui sont à des niveaux de popularité très très faibles, qui n'arrivent plus à convaincre et à susciter la confiance des citoyens. Et donc